Voilà, donc la dernière fois, on a vu donc comment eh bien, Dieu a utilisé l'apôtre Pierre pour guérir un paralytique aîné et aussi pour ressusciter Dorcas, donc une couturière qui était à Jaffa. Et on a vu que l'évangile continue d'avancer. Il y a des difficultés, mais ça n'empêche pas l'évangile d'avancer en Judée et aussi en Samarie. Et ça va continuer jusqu'aux extrémités de la terre, selon ce que le Seigneur avait prévu. Et pourquoi ça continue? Parce que ce n'est pas une œuvre humaine. Parce que souvent, on a le livre des Actes, on l'appelle les Actes des apôtres. D'autres l'appellent les Actes du Saint-Esprit. Et c'est aussi juste, parce que c'est Dieu qui a accompli toutes ces choses. Alors, on a vu que c'est le Saint-Esprit qui a fait se rencontrer Philippe, le diacre Philippe et l'Éthiopien, en acte 8. C'était conduit par le Saint-Esprit. Puis, le juif pharisien Saul, qui allait devenir l'apôtre Paul, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis en contact avec Barnabas, en acte 9. Et dans notre texte du jour, eh bien, c'est une autre rencontre extraordinaire qui n'aurait pas pu se faire sans le concours du Saint-Esprit. Une rencontre entre celle de l'apôtre Pierre, qui est un juif, dont la religion lui interdisait de se lier à un non-juif, et même d'entrer chez lui. Hein. Donc le Saint-Esprit qui va faire se rencontrer l'apôtre Pierre avec Corneille, qui lui n'est pas juif, un non-juif d'entre les nations. Donc je vais lire à partir du verset 1, chapitre 10, du livre des Actes. Je lirai en deux temps, je lirai jusqu'au verset 23. Et je lirai déjà donc, jusqu'au verset 23. Acte 10, verset 1. Vous y êtes ? Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, et avec toute sa maison, il craignait Dieu, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et, saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est au bord de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à l'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici ?» Ils répondirent « Le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. On verra tout à l'heure à la suite ce qui s'est passé, donc jusqu'au verset 23. Alors, ce texte est un passage clé, parce que c'est un passage qui montre que l'Évangile est pour tous. L'Évangile est pour tout à chacun, pour toutes les nations. Ça sera ma vérité centrale, l'Évangile est pour tous. Et je vais développer ça en trois points. Mon premier point, ce sera que Dieu organise des rendez-vous divins en réponse à la prière. Dieu organise des rendez-vous divins en réponse à nos prières. Et le titre de mon message, c'est « Rendez-vous divin ». Deuxièmement, nous verrons que l'Évangile est pour toutes les nations au-delà des préjugés qui séparent. Au-delà des préjugés qui séparent. Et troisièmement, nous verrons que l'Évangile est pour tous, ça veut dire l'Évangile est aussi pour les gens bien. L'Évangile est aussi pour les gens bien. Corneille, donc, c'était qui ? C'était un officier de l'armée romaine qui faisait partie de ces non-juifs. Il n'était pas juif, mais il craignait Dieu. Il avait entendu parler du Dieu des Juifs et il adhérait au culte du vrai Dieu. Et il adhérait aux commandements de Dieu, sans forcément se faire circoncire. Il était humble et il était pieux, malgré son haut rang dans l'armée. Hein. C'était un homme humble et pieux. Et son cœur était tout préparé. Je relis le verset 2 parce que ça retrace bien son profil. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Voilà le modèle d'un homme qui avait une piété personnelle. Qui dit prier piété, être pieux, ça veut dire prier. Et Corneille, c'était un homme de prière. Il priait Dieu selon ce qu'il savait de lui, selon ce qu'il avait entendu parler de lui. Mais il ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Mais est-ce que ça va empêcher Dieu d'entendre sa prière ? Non ! Non ! Ça ne va pas empêcher Dieu d'entendre sa prière. Ses prières sont montées avec ses aumônes en guise de souvenir, nous dit le verset 4, en guise de souvenir. Dieu a remarqué cet homme pieux, même s'il ne connaissait pas encore Jésus-Christ. Ses prières sont montées en guise de souvenir, comme une offrande à une odeur agréable, montée comme avec une offrande agréable à Dieu. Dieu l'a remarqué. Mon premier point, c'est que Dieu organise des rendez-vous divins en réponse à la prière. C'est ce qui va se passer pour Corneille. Vers 15h, donc, Corneille reçoit une vision claire en lui disant que sa prière a été exaucée. Vision d'un ange, sa prière a été exaucée. Il entend que une voix qui lui donne l'ordre d'aller chercher l'apôtre Pierre, qui est où il est, à Jaffa, Jopé dans certaines traductions. Il loge chez Simon, le corroyeur. Ça tombe bien parce que Jaffa est à seulement 48 km de Césarée, là où vit Corneille. Donc Dieu avait déjà tout préparé. Alors Corneille, après cette vision, il a compris que ça venait de Dieu, il obéit rapidement, et il va envoyer deux de ses serviteurs. Et il va aussi envoyer un soldat qui, comme lui, était pieux. Donc ce soldat comprenait Corneille, parce que lui aussi était pieux. Et il a compris les consignes de Corneille. Et qui plus est, ces hommes envoyés par Corneille vont aussi bénéficier de ce qui allait suivre. De comprendre ce qui allait suivre avec l'apôtre Pierre. Voilà pour Corneille. Donc Dieu a visité Corneille. Le lendemain, vers midi, c'est au tour de Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre monta sur le toit pour quoi faire ? Pour prier. Et vous avez remarqué, Dieu va se révéler quand tous les deux sont occupés à la même occupation, c'est-à-dire la prière. Ils ne se sont pas encore rencontrés, mais ils prient. Et Dieu va les faire se rencontrer. L'apôtre Pierre, il avait faim, mais le repas n'était pas encore prêt, donc il était monté sur le toit pour prier. Et sa faim, en quelque sorte, sa faim l'a préparé à la vision qui allait suivre. Il a été transporté en extase, verset 12. Et là, il vit une nappe qui descend du ciel avec dessus du bétail, des reptiles, des oiseaux. Et selon la loi mosaïque, c'est un mélange entre les animaux purs et les animaux impurs. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange », verset 13. Et Pierre, en bon juif qu'il est, il s'est rappelé les lois alimentaires juives qui sont nommés en Lévitique chapitre 11. Et ces lois interdisaient de manger certains animaux qui étaient considérés comme impurs. D'où sa réponse qui a de quoi se surprendre. Quand on y réfléchit, sa réponse est « Non, Seigneur », verset 14. Attends, tu appelles Dieu Seigneur et tu lui dis non. Si tu l'appelles Seigneur, il est le Seigneur de tout. Et il veut qu'on lui obéisse. Et Pierre, donc, il est devant un dilemme. Il a été enseigné, Pierre, sur la loi juive. entre ses convictions judaïques et cette voix qu'il a entendue, et il a reconnu que ça venait de Dieu parce qu'il appelle Seigneur. Et une voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, verset 15. Est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. C'est l'époque qui a changé, parce que Jésus est venu. Dieu avait donné, c'est vrai, des lois alimentaires au peuple d'Israël. Pourquoi? Pourquoi il avait donné des lois alimentaires pour distinguer entre le pur et l'impur? Eh bien, c'était pour séparer les Juifs, Israël, des autres nations. C'était pour mettre à part Israël pour son service. C'était pour que Israël soit une lumière pour les nations. On devait distinguer Israël des autres nations parce que c'est Dieu qui l'avait choisi pour lui donner ses lois, pour se révéler à Israël. D'où cette séparation entre les, ce qui est pur et ce qui est impur. Dieu n'a pas. Mais depuis Jésus, donc la notion de pureté a changé. Qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner à l'apôtre Pierre? Pierre était troublé, il y a de quoi? Et donc, qu'est-ce que ça va? Lorsque vous êtes troublé, ça nous a, vous arrive, je crois que ça nous arrive à tous, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Attends, j'ai rêvé de quelqu'un cette nuit. Ou j'ai une situation, une personne devant les yeux, et ça ne me lâche pas. Et on réfléchit, est-ce que ça vient de Dieu? Dieu, eh bien, Pierre y réfléchit. Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour nous en servir. Dieu y réfléchit, et petit à petit, ça va s'éclaircir. Et n'en doutons pas, frères et sœurs, n'en doutons pas, que Dieu ne veut pas qu'on reste dans le flou. Quand il nous dit quelque chose, peut-être c'est flou au début, mais ça ne le restera pas. Il veut nous éclairer pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il veut nous dire. C'est ce qu'il va faire avec l'apôtre Pierre. Pierre, quand il réfléchit, il savait qu'il y avait des animaux purs et impurs, mais il avait entendu de la bouche de Jésus lui dire, Marc 7, verset 18, lorsque Jésus leur a dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ?» Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Donc ce n'est pas un aliment qui va souiller l'homme. Jésus le leur avait dit déjà. Et Pierre donc réfléchissait entre les lois mosaïques et ce que lui avait dit Jésus. Il y avait de quoi réfléchir parce que la vision, eh bien, est-ce que la vision voulait se limiter à la simple nourriture? Non. La vision dépasse la simple portée de la nourriture. Dieu a utilisé cette illustration d'une nappe avec des animaux purs et impurs pour lui faire comprendre qu'aucune personne ne devait être considérée comme impure comparée aux Juifs. Aucune personne ne devait être considérée comme impure comparée aux Juifs. Voilà de quoi troubler l'apôtre Pierre. Voilà aussi de quoi enlever tout esprit de supériorité d'un Israélite vis-à-vis d'un païen, parce qu'ils ont quand même reçu les oracles de Dieu. Il y avait peut-être la tentation de se croire supérieur. Et voilà de quoi enlever cette supériorité. Pourquoi? Parce que eh bien, nous sommes tous, à la base, souillés, impurs. À cause de quoi? À cause du péché dans notre cœur. Dont nous avons tous hérité de nos premiers parents, Adam et Ève. Et la Bible dit en Romains 3, verset 23, « Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. » Voilà ce qui nous rend impurs, c'est le péché dans notre cœur. Tous, juifs ou pas, nous sommes souillés par le péché et nous avons été enfermés dans la même désobéissance. Pourquoi? Eh bien, pour être l'objet, tous ceux qui croient en tout cas en Christ, pour faire l'objet de la même miséricorde divine. Dieu veut faire miséricorde à tous ceux qui croient en son Fils. Je vous lis Romains 10, verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Juif ou pas. Dieu veut faire miséricorde à tous ceux qui se repentent, qui vont vers lui, qui croient en Jésus. Alors Pierre est réfléchi à tout ça. Mais Dieu sait comment parler à son cœur. Dieu a dû répéter 3 fois la vision des animaux pour que Pierre comprenne. Il fallait que Pierre comprenne. Et Pierre, eh bien, vous vous doutez qu'il est habitué au chiffre 3. Hein. Il avait renié 3 fois son maître. Jésus l'a restauré en lui demandant 3 fois « Pierre, m'aimes-tu ?» Et donc Pierre, il allait comprendre. Dieu nous connaît individuellement. Si nous ne comprenons pas quelque chose, il sait comment te parler à toi personnellement. Et n'en doutons pas, il veut le faire. Et donc Pierre réfléchit à la vision. Et tandis qu'il réfléchit à la vision, eh bien voilà que arrive, eh bien la réponse n'allait pas tarder à arriver, puisque arrivent les envoyés de Corneille. Les serviteurs de Corneille se présentent. Et c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés, par l'intermédiaire de Corneille. C'est pas tant Corneille qui les a envoyés, c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés. Verset 20. Et le Saint-Esprit qui les a envoyés par l'intermédiaire de Corneille, qui a envoyé ces hommes, et bien c'est ce Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qui va en avertir Pierre. Le Saint-Esprit travaille chez les uns et chez les autres. Pierre, encore dirigé par l'Esprit, il descend du toit pour accueillir ses visiteurs et entendre le but de leur visite. Et donc les serviteurs, ils vont parler de Corneille, leur maître, de façon élogieuse. Corneille les a bien préparés. Tout serviteur qui sont, il leur a expliqué l'objet de leur envoi. Et n'oublions pas, il y a dedans un soldat qui est croyant, comme Corneille. Et donc, il peut bien parler de son maître, puisqu'il est aussi croyant. Verset 22. Alors Pierre, eh bien, il obéit, il va obéir à Dieu. Il va se rendre disponible et il va partir le lendemain avec ses serviteurs de Corneille. Il va partir avec eux et aussi quelques-uns des frères de Jaffa, qui vont aussi être témoins de ce qui allait suivre, qui est extraordinaire ce qui allait suivre. Et je vais reprendre ma lecture au verset 24. Donc, et voilà, donc on repartit Pierre avec les envoyés. Il arriva, donc Pierre, il arriva le jour suivant, à partir du verset 24 de Acte 10, il arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit « Lève-toi, moi aussi je suis un homme ». Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit « Il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa, Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corvailleur au bord de la mer. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher et toi tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. » Alors Pierre ouvrit la bouche et dit « En vérité, je le comprends, pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. » Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance pour Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Amen. Jusqu'ici, donc, la parole de Dieu. Mon deuxième point, c'est que l'Évangile, il est pour toutes les nations, au-delà des préjugés qui séparent, au-delà des barrières qui séparent le peuple. Corneille, donc, eh bien, il attendait ses émissaires. Il a invité sa famille et sa maison, hein, donc, à accueillir Pierre, pour accueillir l'apôtre Pierre qui arrive, donc. Il arrive que parfois l'Église organise des manifestations d'évangélisation. Est-ce que nous pensons à inviter nos familles et amis pour un concert, pour une expo Bible? Est-ce que nous pensons? C'est souvent une occasion où les gens peuvent aussi rencontrer le Seigneur et on peut parler avec eux. En tout cas, Corneille, il a pensé à inviter, c'est pas seulement pour lui, il a invité toute sa famille et sa maison. Alors Corneille, il a vu Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient à sa rencontre, il se prosterne devant lui. Attends! Si Corneille est humble, l'apôtre Pierre aussi, il est humble. Pierre va s'humilier. Je ne suis qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Pierre a voulu rendre la gloire à Dieu. Il n'était pas au-dessus. Et Corneille, le peut s'en dire au-dessus. Mais Pierre s'est humilié aussi. Quand on pense à Rome, et ceux qui se disent les successeurs de Pierre, à la papauté, est-ce que il y a encore de coutume de s'agenouiller devant les papes? Mais il serait bon que les successeurs de Pierre réagissent devant ceux qui s'agenouillent devant eux, et bien réagissent comment? En imitant l'apôtre Pierre, en imitant son humilité. Ceux qui se disent les successeurs de Pierre dans la tradition catholique. L'apôtre Pierre lui-même a dit qu'il était un homme. Il était humble. Voilà donc Pierre et Corneille qui font connaissance. Alors Pierre, il avait déjà entendu de la bouche des émissaires de Corneille pourquoi il les avait envoyés. Ce qui n'empêche pas de poser la même question à Corneille. Pourquoi l'a-t-il fait venir? En réponse à quoi, Corneille lui décrit très précisément la visite de l'ange qu'il a reçue. Et alors, les deux comprennent que leur rencontre, Pierre et Corneille, leur rencontre a été organisée par Dieu, a été orchestrée par Dieu. Lorsque les deux hommes se parlent, ils comprennent, mais c'est Dieu qui les a fait se rencontrer, effectivement. Et c'est lorsqu'ils ont compris que ça venait de Dieu, ils n'ont pas laissé traîner les choses. Ils ont promptement répondu, on trouve des mots comme maintenant, verset 5, sans hésiter, verset 20, aussitôt, verset 33, quand on a la conviction que Dieu nous a parlé, ne traînons pas quand il nous demande de faire quelque chose, quand on a cette conviction. Corneille, il avait entendu parler du Dieu des Juifs, et il craignait, il connaissait le Dieu des Juifs, et il avait dû entendre qu'un Juif ne se lie pas à un étranger, un Juif n'entre pas chez un non-Juif. Et imaginez sa joie lorsqu'il entend de la bouche de Pierre, qui a accepté de venir, que Dieu lui a dit de ne considérer d'aucun homme qu'il est souillé, verset 28. Imaginez sa joie. Et pour cause, il est reconnaissant, il dit à Pierre, tu as bien fait de venir, verset 33. Autrement dit, merci d'être venu. Il a accueilli l'apôtre Pierre. Il a compris que ça demandait un effort pour l'apôtre Pierre. Mais Dieu lui a parlé. Il a compris que Dieu il va être d'autant plus attentif. L'apôtre Pierre, tout apôtre qu'il était, il a compris son erreur, il était de bonne foi. Mais il a su se remettre en question. Il continue de cheminer avec le Seigneur. Il ne s'est pas dit, il a connu Jésus en chair, ressuscité, il a fini. Non, il a continué, à plus forte raison nous aussi. On n'a pas fini de connaître le Seigneur. Sa certitude qui le faisait regarder les non-juifs comme impurs, elle est tombée. Il était en train de se passer quelque chose d'extraordinaire. Dieu était en train d'ouvrir la porte de la foi aux païens, aux non-juifs. Pas seulement aux juifs. Et Pierre était en train d'être l'instrument par qui ces choses étaient en train d'arriver. N'oublions pas ce que Pascal a rappelé la semaine dernière, que Pierre, c'est celui à qui ont été données les clés du royaume. Pierre détenait les clés du royaume, ce que lui avait dit Jésus en Matthieu 16, verset 19. Il avait les clés du royaume pour ouvrir non seulement aux juifs, mais aussi aux nations, aux non-juifs. Plus largement, Dieu, eh bien, il voulait apprendre à Pierre à ne plus distinguer des nations impures d'une nation pure. Plus largement, Dieu veut se constituer un peuple issu de toutes les nations. Il veut se constituer un peuple purifié, issu de toutes les nations. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient de tel peuple qu'il est impur. Alors Corneille, il a devant lui l'apôtre Pierre. Et Corneille lui-même dit à Pierre de lui dire, ainsi qu'à ses invités, et vous avez remarqué qu'est-ce qu'il lui demande, non pas de lui dire ce que lui a à lui dire, non, mais ce que Dieu lui a ordonné de dire, verset 33. Quel exemple pour nous ! Quel exemple pour nous de voir sa soif d'entendre la parole de Dieu de la bouche de Pierre. Et Corneille, il était sûr que Dieu allait lui parler quand il a compris. Quand il a compris que Dieu avait aussi parlé à Pierre pour venir chez lui. Est-ce que nous aussi, nous avons cette soif d'entendre la parole de Dieu ? Est-ce que nous aussi, nous croyons que Dieu veut nous parler ? Lorsque nous allons à tel rendez-vous, lorsque nous allons à telle manifestation, lorsque nous allons à la réunion de prière, lorsque nous allons au culte, bien sûr. Si vous êtes là, je crois que c'est vous le croyez. Et en tout cas, n'en doutons pas, Dieu parle à son peuple. Il veut continuer à nous parler. Je relis les versets 34 et verset 35. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Corneille n'était pas sauvé, mais il craignait Dieu, il pratiquait la justice. Alors, c'est aussi, ça peut être une tentation pour nous de faire considération de personne. Qu'est-ce que c'est faire considération de personne? Ça veut dire faire des préférences. Faire du favoritisme. Que Dieu nous garde de faire acception de personnes. Que Dieu nous garde de tout favoritisme. Telle dénomination meilleure que l'un, telle autre, c'est nous qui avons la vérité. C'est, oui, nous avons la vérité, mais les autres aussi. D'autres l'ont aussi. Que Dieu nous garde de tout favoritisme aussi envers les riches. Ou ceux qui sont savants. Ou ceux qui sont reconnus. Dieu ne fait pas de considération de personne. Que Dieu nous garde aussi de faire du favoritisme de nos propres familles, envers nos parents, nos enfants, peut-être notre conjoint, même si nous sommes appelés, bien sûr, à aimer nos familles, à en prendre soin, ce que Dieu nous a confié. Alors oui, l'apôtre Pierre s'est remis en question. Eh bien, nous aussi, nous n'avons pas terminé avec le Seigneur. Nous cheminons avec le Seigneur. Il est vivant. Laissons nos préjugés qui ont parfois la vie dure. Et Dieu nous montrera. Nous montrera, comme il a montré à Pierre. Si on fait fausse route ou pas. Restons humbles comme Pierre. Pierre a su se remettre en question. Pour ne pas avoir des préjugés qui nous ferment aux autres. Dans nos petites vies bien rangées, est-ce qu'il y a du monde vers qui on n'a pas trop envie d'aller ? Oh, pas celui-là, Seigneur. Des gens qu'on considère comme impurs, ou peut-être pas assez intelligents pour comprendre l'Évangile, alors que l'Évangile est pour tous. Dieu regarde au cœur. Qui est-ce qui a la crainte de Dieu ? Qui est-ce qui prie ? Qui est-ce qui aide son prochain ? Dieu connaît ces personnes, même s'ils ne connaissent pas encore Jésus. Il ne fait pas de considération de personne. L'élection divine, elle est impartiale. Il n'y a pas de partialité chez Dieu. Il est juste. Et la grâce divine, il offre sa grâce à tous ceux qui croient. Et imaginez, pour Pierre, c'était révolutionnaire d'entendre ça. D'entendre de la bouche de Dieu. Dieu ne fait pas de considération de personne. C'était révolutionnaire pour Pierre, mais ça ne devrait pas l'être pour nous. C'est facile de se dire, bon, l'évangile, c'est pas pour eux. Et parfois, je l'entends, le peuple juif, Dieu en a fini avec le peuple juif. Non, je ne crois pas. C'est facile de se dire, l'évangile n'est pas pour lui, il est juif. Il n'écoutera jamais. L'évangile n'est pas pour lui, il est musulman. Non. Dieu veille à ce que ce genre de personnes qui craignent Dieu, il y a des musulmans qui craignent Dieu, des catholiques qui craignent Dieu, des juifs qui craignent Dieu. Dieu veille à ce que ce genre de personnes craignant Dieu avec piété, qui le cherchent sincèrement, qui sont dans l'erreur sans le savoir, Dieu veillera. Il veille à ce que il veut que ces gens entendent l'évangile pour être sauvés et pour se laisser trouver par eux. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent réellement, sincèrement. Oui, on n'est pas sauvé parce qu'on fait l'aumône, mais Dieu remarque les aumônes. Ne méprisons pas ceux qui font des bonnes œuvres, même si elles ne sauvent pas. Corneille, il était préparé, Dieu a vu son cœur, il était préparé par sa piété et ses bonnes œuvres, mais il n'était pas sauvé pour autant. C'est bien pour ça que Dieu lui a envoyé Pierre. Dieu remarque les aumônes. Vous vous rappelez Dorcas, que Pierre a ressuscité? Eh bien, elle aussi, elle faisait des aumônes. Chapitre 9, verset 36. Les musulmans qui font des aumônes, ça fait partie, c'est un des cinq piliers de l'islam, l'aumône. Ils prient, bien sûr, ils ne crient pas le vrai Dieu. En vérité, ils ne le connaissent pas. Croyons que Dieu les cherche aussi. Et lorsque nous sommes sortis à la journée de Pentecôte pour faire de l'évangélisation, les personnes qui étaient le plus ouvertes, nous avons utilisé un sondage pour voir ce que les gens croyaient. Et nous sommes tombés sur un musulman, on restait presque une heure avec lui à discuter. Les personnes les plus ouvertes à discuter sur la foi, en général, hein, c'était des musulmans. Il y en a eu deux, un autre qui n'était pas dans notre équipe, une autre personne qui était ouverte à discuter. Les musulmans ne sont pas si loin. Si nous croyons que Dieu nous envoie, nous comprendrons que nous ne sommes pas placés à tel endroit par hasard, dans nos réseaux d'amis, dans nos réseaux professionnels, dans nos réseaux de loisirs. Si nous sommes là, ce n'est pas pour rien. Il y a certainement là où nous sommes, des corneilles qui ne le disent peut-être pas, mais qui ont soif de Dieu. Et il nous appartient à nous de nous rendre disponibles. Il nous appartient à nous, bref, d'être des pierres pour eux, avec un grand P. Et de dire non pas « Mon Seigneur », Pierre il s'est ravisé, hein, mais « Oui Seigneur, je suis disponible ». Et si nous prions pour des occasions de témoigner, n'en doutons pas, Dieu nous en donnera. Parce qu'il y a des personnes qui sont en recherche et qui prient elles aussi. Pour des rendez-vous divins. Les gens ont besoin d'aide pour rencontrer le Seigneur. Non seulement l'histoire de Corneille nous apprend qu'ils ont besoin d'aide, mais il y a aussi l'histoire de l'eunuque éthiopien. Ils ne comprenaient pas, ils avaient besoin que Philippe, le diacre, lui explique. Les gens ont besoin d'aide. C'est notre mission, à nous l'Église. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? De nous rendre disponibles. Donc, sachons reconnaître les occasions qui viennent de Dieu dans les rencontres qu'on peut faire. Corneille, donc, à regarder son profil, quand même, on pourrait dire, mais Corneille, c'est un gars bien. Il correspond bien au profil du verset 35 que Pierre a dit. Celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Pierre, il rentrait dans ce cadre-là. Pourtant, même Corneille, ce type bien, c'était quelqu'un de bien, qui vivait dans une certaine connaissance de Dieu. Il était pieux, il aimait, il craignait Dieu, il priait constamment, hein. Il faisait des aumônes, il pratiquait la justice. Même ce gars bien qu'était Corneille, aussi bon soit-il, il avait besoin d'être sauvé de ses péchés. Il avait besoin de recevoir le Seigneur, d'être pardonné de ses péchés, il en avait aussi. Il avait besoin de se faire baptiser. Il avait besoin de connaître ainsi cette intimité avec le Seigneur, plus proche de lui. Il avait besoin de l'assurance du salut, qu'il n'avait pas. Comme beaucoup qui pratiquent beaucoup de bonnes œuvres. C'est pourquoi, bien Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui annoncer l'évangile. Il en a besoin lui aussi. Versets 36 à 43, il lui annonce l'évangile. Mon troisième point, c'est que l'évangile est aussi pour les gens bien. Alors, si on se penche sur la prédication de Pierre, Pierre ne s'attarde pas sur l'histoire d'Israël. Il a affaire à un non-juif. Mais il va s'attarder sur celui qui est issu du peuple d'Israël, Jésus de Nazareth, qui est né du Saint-Esprit, qui a été oint du Saint-Esprit, qui a été envoyé par Dieu vers Israël, d'où il est sorti, pour lui apporter la parole, et pour faire du bien. Pierre appelle Jésus le Seigneur de tous, pas seulement des Juifs. L'Évangile est pour tous, même si la parole de Dieu a d'abord été donnée aux Juifs. Et même si ce sont les Juifs qui l'ont fait crucifier, nous sommes tous responsables de la mort de Jésus. Jésus est mort pour nous tous, pour nous pardonner nos péchés, à nous tous. Jésus s'est montré ressuscité à des croyants, dont Pierre fait partie. Pierre dit qu'il a même mangé et bu avec lui après sa résurrection. Imaginez Corneille entendre ça. Pierre, il est vivant. Jésus est vivant, Pierre l'a touché. Pierre sait de quoi il parle. Verset 41. Il a mangé et bu avec lui après sa résurrection. Pierre appelle Jésus, il rappelle que Dieu a désigné Jésus comme quoi ? Il ne parle pas encore du pardon. Jésus est d'abord le juge des vivants et des morts, verset 42. Des vivants et des morts, ça veut dire aussi bien juifs que non-juifs. Et Dieu lui a commandé à Pierre de prêcher que Jésus est le juge des vivants et des morts. C'est une réalité à venir, il y aura un jugement pour tous. Mais Pierre, même s'il mentionne le jugement comme une réalité à venir, il ne s'attarde pas sur le jugement. Il s'attarde sur le moyen de ne pas être condamné. Verset 43, quiconque, juif ou non-juif, hein, c'est moi qui je rajoute, quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Verset 43, quiconque. Quiconque de tout peuple, de toute langue, qui croit en lui, reçoit le pardon des péchés. Jésus, il est d'abord venu pour nous pardonner nos péchés, pour nous faire grâce. Le jugement, c'est pour tous ceux qui ne l'auront pas reçu, qui n'auront pas cru en lui. Jésus est venu pour le pardon des péchés de tous, aussi bien juifs que non-juifs, aussi bien des pécheurs notoires que des gens bien comme Corneille. Il avait aussi des péchés. Nous sommes dans le temps de la grâce, avant celui du jugement à venir. Et c'est vrai que bien nous annonçons la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais il est bon de mentionner que Jésus a été désigné par Dieu comme le juge. Jésus est à la fois l'avocat de tous ceux qui se confient en lui, il sera aussi le juge de tous ceux qui l'auront rejeté, le juge des vivants et des morts. Alors vous imaginez que ces paroles ont dû avoir l'effet d'un électrochoc chez Corneille. Et il n'était pas tout seul, il avait sa famille, il avait sa maison. Il y avait aussi des croyants juifs qui étaient venus avec Pierre. Eux aussi, ils ont dû recevoir cet électrochoc. L'Évangile fait tomber les barrières nationales et religieuses. Alors, dans tous ces événements, ça a commencé par la visite de l'ange chez Corneille, puis la visite de Pierre. C'est pas fini. Maintenant vient la visite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient sceller qui vient sceller la foi de ces nouveaux convertis. Vous avez remarqué, pendant que Pierre parle, hein, il n'a pas eu le temps de dire ses phrases. Pendant que Pierre parle, le Saint-Esprit descend sur les auditeurs. Avec un signe. Le même signe qui a accompagné le jour de la Pentecôte en acte 2, la conversion des Juifs, c'est le même signe, c'est le parler en langue. Ce signe n'est plus indispensable aujourd'hui, mais c'était le signe pour les apôtres que les auditeurs avaient reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait qu'ils parlent en langue, c'est parce qu'ils croyaient en Dieu, ils s'étaient repentis, et surtout ils avaient entendu l'évangile de Jésus-Christ. Alors ici, eh bien, on peut dire qu'après la Pentecôte des Juifs qui a eu lieu en acte 2 à Jérusalem, on assiste à une deuxième Pentecôte, qui est la Pentecôte des païens, chez Corneille. Corneille a été le premier non-juif converti. Alors, eh bien, voyant qu'ils ont aussi reçu le Saint-Esprit, Pierre demande le baptême pour ses auditeurs. Alors, Dieu n'est pas limité, vous savez, à notre addition. Parce qu'il y a une différence quand même entre les deux Pentecôtes. Entre la Pentecôte des Juifs en acte 2 et celle ici, chez Corneille, des non-Juifs, qui est tombée sur les non-Juifs. En acte 2, quand est-ce que les Juifs ont reçu le Saint-Esprit et se sont fait baptiser? Ils ont d'abord écouté la parole. Et ils ont reçu le Saint-Esprit après leur baptême. Tandis qu'ici, les non-juifs, ils écoutent la parole, ils reçoivent d'abord le Saint-Esprit, à l'écoute de la parole de Dieu toujours, ils exaltent Dieu, verset 46, puis ils se font baptiser. Dans un cas, c'était avant leur baptême, après leur baptême, dans un autre cas, c'est après leur baptême. Dieu n'est pas limité. Il sait comment s'y prendre avec tout un chacun. Il est vivant. Il n'est pas enfermé dans des traditions qui risqueraient encore de créer des préjugés. Il agit quand il veut, comme il le veut. Mais il agit toujours en accord avec sa parole. En tout cas, pour être baptisé, eh bien, la condition, c'est d'avoir reçu le Saint-Esprit. Dans les deux cas, juif ou non-juif, eh bien, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Il faut être né de nouveau en ayant placé sa confiance en Jésus, comme son Sauveur. Et s'être repenti de ses péchés. Il faut être né de nouveau et avoir reçu le Saint-Esprit pour être baptisé. Mais attention, être baptisé n'est pas une garantie qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et on en a un exemple avec Simon le magicien dont on a parlé en acte 8. Simon, il s'était fait baptiser, mais il n'avait pas abandonné ses pratiques magiques. Il voulait acheter le Saint-Esprit. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Pierre a fait remarquer par l'expression qu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, qu'on est sauvé, eh bien, non pas par la manière de recevoir le Saint-Esprit, ni par l'observation de la loi juive, ni par la circoncision, ni par ses origines juives ou non juives, ni par les bonnes œuvres qu'on peut faire, même si c'est important, ni par l'aumône, on n'est pas sauvé par le baptême non plus, mais uniquement par la repentance et la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, et en sa parole. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit et qui purifie. Alors je vous pose une question, êtes-vous pur? Êtes-vous pur? Tite 1, verset 15 nous dit: tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes purifiés, nous sommes purs. Dieu nous voit purs. Jésus avait dit à ses disciples en Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Alors, quelle est notre attitude lorsque nous sortons? Nous côtoyons bien sûr des non-croyants, eh bien nous n'avons pas à avoir peur d'être rendus impurs à leur contact. Puisque Jésus nous purifie, voilà de quoi enlever aux Juifs, et peut-être aussi à nous chrétiens, la peur de nous rendre impurs au contact de ceux qui ne sont pas comme nous, au contact des autres confessions. Vous vous rappelez, Jésus a fréquenté ce qui était considéré par la société juive comme impur. À leur contact, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus n'est pas devenu impur, mais ce sont eux qui sont devenus purs à son contact. Jésus nous purifie. Alors voilà, autant de raisons de se réjouir dans tous ces événements qui se sont passés chez Corneille. Et effectivement, eh bien, ils avaient tellement la joie. Les nouveaux croyants chez Corneille, eh bien, ils ont persuadé Pierre et ses amis de rester encore quelques jours pour le plaisir d'être ensemble, pour la communion fraternelle. Je vais prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu n'as pas fini de parler à nos cœurs, Seigneur. L'apôtre Pierre, il t'a connu en chair, Seigneur. Il avait les raisons de se dire il sait tout. Mais non, Seigneur, tu as, Tu as continué de l'enseigner, tu as continué de le faire avancer. Et c'est ce que tu fais avec chacun d'entre nous, Seigneur. On peut penser qu'on sait tout, qu'on connaît bien ta parole, et merci, parce que, Seigneur, c'est tellement important de lire ta parole. Mais, Seigneur, tu es vivant, et nous voulons, Seigneur, te voir agir dans les circonstances que tu mets dans nos vies, que ce soit aussi bien des difficultés que des rencontres, nous voulons comprendre ton plan, nous voulons comprendre, Seigneur, comment tu agis. Nous voulons reconnaître ce qui vient de toi, nous mettre à ta... Voilà, je prie que nous soyons disponibles, Seigneur, pour toi. Et Seigneur, voilà, nous avons besoin de discernement, Seigneur. Parce qu'à la fois, nous voulons te plaire, Seigneur, et tu sais aussi combien parfois l'ennemi se transforme en ange de lumière. Seigneur, on a besoin de discernement pour reconnaître ce qui vient de toi, nous rendre disponibles, Seigneur, et à la fois ne pas nous laisser distraire par les ruses de l'ennemi qui voudraient nous détacher de la foi en Jésus. Seigneur, que vraiment nous restions attachés à toi et que nous soyons à ta disposition, que nous reflétions ta lumière, que nous sachions reconnaître, Seigneur, lorsque tu agis et que nous comprenions quel est ton plan, Seigneur, dans les circonstances de notre vie, que nous laissions utiliser par toi. Merci pour le pardon de mes péchés, de nos péchés. Seigneur, que nous soyons des flambeaux pour annoncer cette bonne nouvelle que quiconque croit en toi, Seigneur Jésus, reçoit le pardon de ses péchés. Merci, Seigneur, parce que tu ne fais pas de considération de personne. Garde-nous d'enfer, Seigneur. Par le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.